Livre de Job, chapitre 42, le verset 10, c'est l'épilogue de l'histoire. Job, nous connaissons son récit, et il est dit la chose suivante: l'Éternel rétablit la situation de Job. C'est beau, hein? L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Dans ce verset, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que l'on pourrait décortiquer, il y a plein de choses que l'on pourrait voir, mais on va s'attacher à la conclusion et à l'esprit général. L'Éternel va rétablir la situation de Job. Pourtant, Job a traversé un moment ô combien difficile. Nous connaissons son récit. Plus d'argent, toutes ses richesses qui se sont envolées. Job a connu la perte de sa renommée, a perdu la perte de ses enfants. Ce sont des moments qui sont ô combien compliqués. Et je crois que de la même manière que Job, nous traverserons des tempêtes. Nous en avons traversé, nous en traverserons encore, nous traverserons des épreuves difficiles, compliquées. Et lorsque j'ai relu le livre de Job, ce qui m'a profondément marqué, c'est l'ambivalence qu'il peut y avoir dans la foi de cet homme de Dieu. Plein de doutes, plein de colère, plein d'incompréhension, comme nous. Parfois, on se culpabilise, parce que dans notre cœur, il y a des sentiments qui ne semblent pas glorifier Dieu. On se retrouve avec des doutes. Interviendras-tu, Seigneur ? Le feras-tu ? Changeras-tu cette situation ? Changeras-tu mon cœur ? On se retrouve avec une certaine colère. C'est pas juste. C'est pas juste que ça tombe sur moi. Pourtant, mon frère, ma sœur, sois comme Job jusqu'au bout. Job a tenu bon dans la tempête, tout simplement parce que dans son cœur, il y avait des assurances qui étaient indéboulonnables. Et au milieu de tout ce marasme, de questionnement, de peur, de crainte, il va y avoir une vision de la grâce chez Job. Il va y avoir une vision véritablement de l'amour de Dieu. Il va y avoir une vision de l'éternité. Et c'est extraordinaire de lire ce récit sous cet angle-là. Je crois que si Job a tenu bon dans la difficulté, c'est parce qu'il avait ses assurances attachées à son cœur. Mon frère, ma sœur, dans la tempête que tu traverses, dans l'épreuve qui est la tienne, dans celle qui viendra peut-être demain, veille sur ces assurances, qu'elles soient présentes en toi. Elles sont très simples, mais c'est ça qui a permis à Job de tenir. Et de la même manière, je crois que c'est ça qui nous tiendra tous à notre place. La première de ces assurances, c'est tout simplement que Job avait une espérance, une vision de la gloire à venir. Job, chapitre 19, versets 24 à 27, Job dira « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent toutes gravées dans le roc. » Trois petits points de suspension en parlant de ses épreuves, de ses difficultés, de ses douleurs. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Amen. « Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Qu'il est beau ce texte. Alors que cet homme est dans un marasme complet, il a tout de même cette vision de l'éternité. Il a tout de même cette vision de la gloire de Dieu. Et je dirais que dans sa situation, Job n'a plus d'espoir. À aucun moment, je ne vois chez cet homme la possibilité que Dieu change sa situation. À aucun moment, lorsque nous lisons le livre de Job, nous voyons que Job a la foi pour que Dieu le rétablisse, lui redonne sa richesse, lui redonne sa renommée. Il n'a plus d'espoir, mais il a une espérance. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder. Bien souvent, nous sommes focalisés sur l'espoir. Nous sommes focalisés sur le fait que Dieu va agir maintenant sur cette terre. Nous sommes focalisés sur le fait que Dieu va poser sa main maintenant sur cette terre, qu'il va solutionner, qu'il va nous rétablir complètement. Mais en réalité, notre cœur, il doit être là-haut, au niveau de cette espérance vivante. Mon frère, ma sœur, ce qui te tiendra dans l'épreuve, ce n'est pas simplement que Dieu est capable de rétablir ta situation perdue. Mais c'est qu'un jour, tes yeux verront Jésus. C'est qu'un jour, tes yeux verront ton Dieu et que tu partageras l'éternité. Job n'avait plus d'espoir. plus aucun espoir. La seule chose qui le rattachait, c'était l'espérance. Il en va de même pour toi. Cultive l'espérance, plus que toute autre chose. Comme je dirais en conclusion, c'est une ancre pour notre foi, comme dit l'auteur aux Hébreux. C'est ce qui nous tient. Et dans ce verset, on voit plusieurs choses en quoi Job croit, plusieurs choses qui composent cette espérance. La première chose, c'est la souveraineté de Dieu. Mais je sais que mon Dieu existe. Malgré toutes ces tempêtes, la vision de Dieu reste claire pour Job. Et Dieu reste Dieu. On le voit lorsque sa femme vient lui dire « Maudit Dieu et meurt ». Et la réponse de Job, on la chante, mais quelqu'un a dit un jour que les chrétiens ne mentaient jamais autant que lorsqu'ils chantaient. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. On l'a chanté ce matin. La souveraineté de Dieu, tout lui appartient. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, dira l'apôtre Paul. Notre famille est un cadeau de Dieu. Nos amis sont un cadeau de Dieu. Notre vie est un cadeau de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu vis, mon ami, c'est un cadeau de Dieu. Et nous savons que nous ne sommes que des vapeurs et que demain, nous pouvons tout perdre. Mais ce que nous ne perdrons pas, c'est le fait que Dieu est aux commandes, que Dieu dirige et que Dieu a un plan, que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Job savait qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu était souverain. Est-ce que nous avons cette vision d'un Dieu souverain, entre les mains duquel nous avons tout remis? L'Éternel a donné? L'Éternel a repris? Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a repris tes rêves? A repris tes projets? Tes ambitions? T'as ramené les pieds sur terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce qu'on voit, c'est que Job a non seulement une vision de Dieu, mais a une vision de l'éternité dans sa globalité. Lorsqu'il n'aura plus d'os, ses yeux verront Jésus. Lorsqu'il n'aura plus de peau, lorsqu'il n'aura plus de chair, eh bien, ses yeux verront Dieu. Il n'a pas simplement une vision de Dieu, mais il a une vision de l'éternité avec Dieu. Et l'apôtre Paul écrira aux Romains ce verset que j'aime beaucoup. Il disait qu'il soupesait, il comptait, que les peines de ce monde, les difficultés de ce monde, comparées à la gloire à venir, n'étaient rien. Et sous la plume de l'apôtre Paul, c'est extraordinaire. Quand on connaît les lapidations, quand on connaît ce par quoi il est passé, que cet homme puisse écrire une chose pareille. Seigneur, révèle-moi ce que c'est que d'avoir un corps incorruptible. Moi qui suis malade, moi qui peux souffrir dans mon corps, moi qui peux souffrir dans mon cœur. Seigneur, je veux avoir cette vision de l'éternité. Il y a un enfer, il y a un paradis, mais au-delà de ça, il y a une vie avec Dieu, il y a une vie sans Dieu. Au-delà de ça, il y a la gloire de Dieu. Oui, ces choses-là, les peines éternelles existent, nous le savons. Et nous savons qu'à partir du moment où nous avons cru en Jésus, non seulement nous irons au paradis, mais nous connaîtrons la gloire de Dieu. Nous la verrons face à face. Nous la verrons face à face. Job avait ça dans sa tête, dans son cœur. Et alors qu'il se grattait avec des tessons de bouteille, alors que son ulcère malin était en train de broyer sa chair, il avait cette vision de Dieu. Il avait une vision de l'éternité. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, on pourrait peut-être fermer nos yeux. Juste 5 secondes, 10 secondes. Déconnecte-toi de ta difficulté aujourd'hui. Tu es malade dans ton corps. pense à la gloire de Dieu. Projette-toi dans l'éternité. Demande au Saint-Esprit de t'emmener plus loin, de t'emmener plus haut. Tes problèmes familiaux. Repasse ton espérance dans ton cœur. Cette espérance qui vient d'en haut. Cette espérance qui vient d'en haut. Cette espérance qui te fera du bien. Vous savez, Job, il a la foi dans un Dieu vivant qui agira. Il parle, de ce Dieu qui est comme un vengeur. Alors, le livre de Job est certainement l'un des livres les plus anciens de la Bible. On le voit notamment au travers, de la pièce de monnaie, qui est utilisée. Mais en lisant ce terme de vengeur, ça m'a fait penser au texte du livre des Nombres. Vous connaissez le vengeur du sang ? C'était cet homme, par exemple, l'exemple que je prends souvent, je suis en train de bricoler avec Patrick. Et puis étant donné que je suis extrêmement doué, ma perceuse m'échappe de manière malencontreuse et je lui transperce le crâne avec la mèche. Complètement involontairement. Complètement involontairement, je vous dis, je ne suis pas droit du tout. Et là, il se passe quelque chose, c'est que dans la famille de Patrick, c'est-à-dire Valérie, parce que Romain ne peut pas me courir après, étant donné qu'il a des béquilles, a le droit, selon la loi de Moïse, de me tuer, de me venger, de venger son mari en me tuant de la même manière. Donc elle est obligée de le faire avec une perceuse. Et mon seul moyen de refuge à moi, quelque part, c'est d'aller me réfugier dans ce que Moïse et Josué ont instauré, c'est-à-dire ce sont les villes de refuge. Là où je suis à l'abri, de la méchante Valérie qui veut me percer le crâne avec la mèche de la perceuse. Et ce texte avait pour but d'exercer la loi du talion, certes, mais également de prouver qu'il y avait d'instaurer une forme de justice. Si on tue quelqu'un que tu aimes avec une perceuse, tu as le droit de le tuer avec une perceuse, mais pas avec un marteau. Et quelque part, c'est dans la pensée de Job, c'est de dire ça. Mon Dieu me fera justice. Mon Dieu me fera justice. C'est-à-dire que moi, dans mon état, je ne suis pas capable de le faire. Dans mon état, je ne suis pas capable d'accomplir et véritablement d'exercer mon droit. Dans le livre de Job, le vocable juridique est très très présent. D'exercer mon droit. En revanche, j'ai un Dieu qui le fera. Et je crois que c'est vrai. Oh, vous inquiétez pas, il ne fustigera pas vos ennemis sur la terre en les foudroyant. Ou du moins, je ne le pense pas, ou pas directement. Mais dans le ciel, toutes les souffrances accumulées à cause de son nom nous seront comptées comme justice. Et je crois qu'il y a bien des situations même sur cette terre qui seront redressées. Je vous le dis souvent, mais acceptons de vivre l'injustice. Nous serons ainsi, à l'image de Jésus. Job avait cette notion du fait que Dieu lui fera justice. Et je crois que, conclusion de cette première partie, c'est vrai que l'espérance est une encre pour notre foi. Et la vie sur terre est une chose, mais elle est complètement limitée. Notre cœur doit déjà être plus loin. Et lorsque tu souffres, pense à ce qui t'attend dans l'éternité. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième point, c'est que Job avait l'assurance d'un cœur pur, d'une conscience pure. C'est-à-dire que devant Dieu, il savait. Non pas qu'il était parfait, mais qu'il avait fait tout son possible. Et au-delà de ça, qu'il avait un témoin dans le ciel, nous avons décrypté tout ça. Job 27, verset 6, dira « Je tiens à ma justice et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait aucun reproche sur aucun de mes jours. » Mon cœur ne me fait aucun reproche sur aucun de mes jours. C'est beau, hein ? Est-ce notre cas ? Non. Job était profondément intègre. Profondément. Et nous, ce qu'il doit faire, et de cette intégrité, naissait une conscience pure de laquelle découle une piété pure. Au chapitre 16, au verset 17, il parlera de mains sans violence et de mains pures. Un petit peu comme nous l'avons chanté et comme Paul le demande à Timothée. Il veut qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant des mains pures, etc. C'est-à-dire, mes actes sont purs. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que finalement, tout ce que j'ai pu faire a été droit. Je me suis même, vous savez, quand on est chrétien, on arrive même à se tromper avec droiture. Ça m'arrive de pécher et de me tromper avec droiture. Mais sans aucun problème, j'y vais droit devant. Hein. J'y vais droit devant. Sous la grâce, on a la repentance. Et à partir du moment où on a conscience de quelque chose et que l'on demande pardon, on croit que l'on est pardonné. C'est ça ? Avoir son cœur qui ne nous accuse plus. Ce n'est pas vivre sans cesse dans le passé en se disant « mais c'est pas possible, etc. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Non. Voilà. Je suis droit devant Dieu, j'ai commis mes erreurs, je demande pardon et je suis pardonné en Jésus. Je suis pardonné et je demande pardon, bien sûr, à ceux qui m'entourent et je vis la grâce. Hein, c'est évident. Et Job a cette vision de la grâce. 16-19, il dira « mon témoin est dans le ciel. » Mon témoin est dans le ciel. On est avant la loi de Moïse. Et pourtant, Job a déjà la vision, en quelque sorte, de Jésus qui est notre avocat. Qui est notre avocat dans le ciel. Et il peut dire, mais lui, il peut attester, vous, mes amis, vous me dites que je suis coupable, que j'ai péché, que tout ce qui m'arrive, finalement, le fait de péché de ma part. Mais dans le ciel, Dieu m'est témoin, Dieu a un témoin qui lui affirmera que je n'ai rien fait. Dieu est le juge et Job a la vision d'un témoin. C'est extraordinaire, mais ça nous fait penser à Jésus. Ça nous fait penser à la grâce. Ça nous fait penser à Jésus qui, dans le ciel de gloire, eh bien, va devant le Père et dit « Non, n'accuse pas Samuel, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. J'ai pris son péché. Quelles que soient les fautes que nous ayons pu commettre, Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est notre témoin. Il est le gage de notre sainteté. » Il est le gage de notre sainteté. Si nous marchons en vérité, si nous marchons par la foi uniquement en croyant que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous, en nous repentant, alors nous pouvons avoir un cœur droit et aucun de nos jours nous accusera. Parce que nous vivrons la grâce. Nous avons un témoin dans le ciel. Nous avons un avocat dans le ciel. Jésus-Christ le juge, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Extraordinaire. Cette vision de la grâce. Tu peux avoir un cœur qui ne te reproche rien. Tu peux avoir des mains pures, élever les mains lorsque tu loues Dieu, avoir l'assurance que tes prières sont entendues, sont connues de Dieu. Simplement, crois dans ce témoin qu'il y a dans le ciel, dans cet avocat qui intercède pour toi. Job avait cette conscience. Dans le livre de Zacharie, on trouve l'exemple du sacrificateur Josué qui est accusé, homme de Dieu. Il est accusé. Et là, on va voir Jésus qui va lui remettre des vêtements blancs et un turban pour sa tête. Même si nos vies ne sont pas parfaites, nous pouvons vivre en paix. Nous pouvons vivre en paix. Ne recherchons pas la perfection. Recherchons la sanctification et recherchons la paix avec Dieu. Et la paix avec nous-mêmes. Tu as un témoin dans le ciel. Dans l'épreuve, la culpabilité tente à nous gagner. Vous savez, quand vous traversez une tempête, quel est le premier combat que vous avez ? C'est de croire que vous n'y êtes pour rien. Première question que l'on se pose, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Qu'est-ce que j'ai bien pu encore faire ? J'ai dû parler de travers. J'ai dû parler mal. Oh là 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 là. Mon patron est infernal avec moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? C'est le premier réflexe que l'on a en règle générale. Et ensuite, on avance dans la culpabilité. Et puis, il y en a un qui se charge de l'alimenter. D'où l'importance de vivre avec cette notion d'un témoin dans le ciel qui nous justifie à chaque moment et à chaque instant. Job a tenu dans l'épreuve, premièrement, parce qu'il avait la vision d'un Dieu qu'il allait voir face à face. Job a tenu dans l'épreuve parce qu'il avait une vision de la grâce. Job a tenu dans l'épreuve. Pour quelle raison ? Allez, petit quiz. Mon dessert à celui qui trouve. Patrick, tu te tais. Non ? Vous voulez pas mon dessert ? Bon. Job, chapitre 23, verset 10. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. J'en sortirai pur comme l'or. Et ça, c'est extraordinaire comme vision. De se dire que Job, ok, il a cette vision de l'éternité, mais il a également cette vision du fait que l'épreuve sanctifie. Et qu'au travers de ce qu'il est en train de vivre, on verra parce qu'il y a une autre version qui est beaucoup plus claire, eh bien, l'épreuve a un but pédagogique et un but de sanctification. Et je pense que c'est une bonne mentalité que de se dire, bon, ok, là je passe par des moments difficiles, et j'en ai connu un certain nombre dans ma vie. Il y a ma belle-mère à la maison, ça sanctifie un homme. Mais le Seigneur produira en moi la patience. Le Seigneur produira en moi la patience. Chaque fois que, en nous, chaque fois que nous passons au creuset, alors il se produit quelque chose en nous. Quelque chose en moins. Ou nous, parce que nous sommes dépouillés de nous-mêmes, dépouillés de notre vieille nature. Dépouillés de pensées qui n'étaient pas forcément la gloire de Dieu, dépouillés de notre orgueil. Parce que dans la tempête, il ne reste plus grand-chose de nous-mêmes. Pour ceux qui sont passés entre les mains du potier, et j'y suis passé un certain nombre de fois, il ne reste plus grand-chose de nous-mêmes et de nos illusions quant à notre force. Mais dans la tempête et dans l'épreuve, il y a également des plus. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments purs, il y a des sentiments sains qui naissent. L'épreuve de votre foi produira la patience, etc. Vous connaissez ce texte. C'est-à-dire que non seulement elle enlève, mais elle produit. Il y a un moins qui est là, mais qui est remplacé par un plus positif. Pléonasme. Mais vous comprenez pourquoi je le dis. Ce n'est pas un ajout neutre, mais c'est un ajout positif. C'est-à-dire que notre caractère, en quelque sorte, est épuré et ressemble au caractère de Jésus. Et ressemble au caractère de Jésus. D'autres versions traduisent ce verset d'une manière quelque peu différente, et je l'ai trouvé intéressante parce que ça colle mieux avec le sens du texte de Job. Ce verset m'a fait me remuer les méninges parce que ça ne collait pas à l'ensemble du discours. Et d'autres versions traduisent de la manière suivante, « Car il connaît le chemin que je suis. S'il voulait me mettre à l'épreuve, j'en sortirais pur comme de l'or. » Vous voyez la distinction ? C'est-à-dire que là, Job dit à ses amis, « Attendez, je sais comment fonctionne Dieu. Si ce que vous disiez était vrai, et que si c'est vrai que je passais une correction de la part de Dieu, alors j'en sortirai bonifié, j'en ressortirai construit, j'en ressortirai édifié. Mais là, je ne fais qu'être brisé. » Parce que, comme je le disais dans le premier culte, le combat était complètement autre. C'est-à-dire que Job était le... L'enjeu de la vie de Job n'était pas simplement sa propre vie, mais était de montrer que l'on pouvait simplement aimer Dieu pour rien. Et ça, c'est quelque chose qui dépassait Job, qui dépassait ses amis, qui nous dépassait complètement. Et là, Job, il dit, non, non, ça ne colle pas votre raisonnement. Parce que si jamais c'était ce que vous disiez, alors l'épreuve ne me détruirait pas, mais j'en sortirais grandi. Et ça, c'est le deuxième aspect qu'il faut toujours serrer dans notre cœur. Cette parole de foi, de dire « Seigneur, tu permets que je passe par la tempête, tu permets que je passe par la correction, tu permets que je passe par des moments compliqués, par des moments difficiles. » Ok. Mais j'ai cette assurance dans mon cœur que je ne serai pas détruite, que je ne serai pas détruit. J'ai cette assurance dans mon cœur que mon cœur restera droit, que ma vie sera édifiée, que quelque part, eh bien Seigneur, tu me feras du bien. Je peux être comme dans une machine à laver, mais je ne ressortirai pas en mille morceaux. Je ressortirai plus propre. Je ressortirai plus propre. C'est ces assurances-là qu'il nous faut cultiver. Mon frère, ma sœur, tu ne ressortiras pas brisé de l'épreuve. Tu ne ressortiras pas en morceaux. À condition que tu arrêtes de taper la tête contre le mur. Mais si c'est vraiment Dieu qui permet l'épreuve, tu en ressortiras construite, plus forte. Alors que le nom du Seigneur soit béni. En conclusion, dans l'épreuve, nous sommes bien souvent seuls, face à nous-mêmes, face à nos incompréhensions, à nos questions, à nos doutes, à nos peurs. Et on la gère tous de manière différente. Vous êtes à peu près 200, dont je m'occupe, vous avez 200 manières de gérer l'épreuve de manière différente. 200 manières de gérer l'épreuve. Il n'y a rien qui se ressemble. Et vous savez, il y a une chose qui est certaine pour bien vivre l'épreuve, c'est qu'il ne faut pas essayer de la comprendre. Il ne faut pas essayer de se dire « Ouais, le Seigneur veut faire ci, le Seigneur veut faire ça. » Parce que comme je le dis de temps en temps, sinon on se fait des nœuds à la foi. Et puis on se dit, mais je comprends rien au plan de Dieu. Ben oui, mais c'est normal, parce que Dieu est Dieu et nous on est des hommes. C'est normal de rien y comprendre. Il a ses manières, il a ses manières de procéder qui sont les siennes. Si nous voulons tenir bon, la seule chose que nous avons à vivre, nous avons ces trois choses à serrer sur notre cœur. Un jour nos yeux verront Jésus. Et ça en sera terminé tout ça. Deuxièmement, eh bien, nous serrons dans notre cœur. Le fait que, rappelez-moi mon deuxième point de grâce, merci, qu'il y ait un témoin dans le ciel. Et que quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, quelles que soient nos fautes et nos erreurs, la grâce de Dieu sera dans notre vie. Nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Troisième axe, ce que nous vivons est utile. Et peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas Jésus. Tu passes peut-être par la maladie, tu passes peut-être par un grave problème de couple. Sache une chose, là il y a une parole de Dieu, sache une chose, c'est que la situation par laquelle tu passes n'est pas inutile, mais elle te servira à découvrir que tu as un témoin dans le ciel, elle te servira à découvrir la grandeur et la puissance de Dieu. On va se recueillir quelques instants et prier le Seigneur.